Vous écoutez
RMC.
RMC. 7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian PC.
Il est 7h07 en ce 4 juillet 2020. Vous êtes au cœur de ce week-end des experts. Et après le jardin, et avant de retrouver la forme, la santé tout à l'heure avec Christian et Kia, c'est la maison. Et la maison, c'est avec Christian PC. Bonjour,
oui,
Christian.
Je suis là. Bonjour, mon cher François.
Mon petit cri-cri.
Mon petit franc-franc.
Bon, ah oui.
Allez, années,
si vous voulez, on a quand même nos petits diminutifs.
Voilà.
Quand on s'appelle la semaine, c'est mon petit cri-cri, mon petit franc-franc.
Ah, bien sûr.
Alors, Christian, plus sérieusement, tout à l'heure, on va rénover sa maison, mais surtout. Pour la rénover, il faut bien choisir les bonnes entreprises.
Voilà, bon, c'est la galère classique.
Hein. Bien
on
sûr.
A toujours beaucoup de mal à trouver un bon artisan, une bonne entreprise. Alors, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Alors, on va voir ça avec Fabio Rinaldi, qui est président du directeur de Big Mat. Big Mat, vous savez, c'est une enseigne de négoce, comme on dit, c'est-à-dire qui s'adresse aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers, plus peut-être aux professionnels qu'aux particuliers. Eh bien, ils ont fait une enquête très, très récemment. Et donc, on va voir quels sont les points clés pour choisir une entreprise. Est-ce que c'est le bouche à oreille? Est-ce qu'Internet peut être une bonne piste? C'est une enseigne où il y a des artisans tous les jours, où il y a des clients tous les jours. Donc, c'était intéressant d'avoir le point de vue de Big Mat.
On en parle tout à l'heure. Et puis, bien sûr, vos questions sur le choix du bon artisan pour rénover votre maison. Dès maintenant, 3216 ou bien l'appli RMC et Direct Studio. Tout à l'heure, on s'intéressera aussi à un projet passionnant qui parle d'autoproduction et d'autoconsommation d'électricité photovoltaïque.
Oui, il y a une expérience qui est lancée. D'ailleurs, il va y avoir plusieurs de cette nature. C'est véritablement une communauté qui produit de l'électricité pour elle-même. Alors, quand on dit une communauté, c'est-à-dire un certain nombre de maisons individuelles. Oui. C'est supporté par des autorités locales, on va dire par la mairie. C'est sur l'île-lieu. Hein.
Oui.
Et puis, c'est tout cela est conduit par Engie. C'est vraiment très intéressant et ça a l'air de très bien démarrer. C'est certainement l'avenir aussi de la production et de la consommation d'électricité.
On en parle tout à l'heure. Et puis, je le disais, vos questions bricolage, maison déco, 3216, l'appli RMC Direct Studio. Et avant de parler des clims, dans un instant, on accueille avec beaucoup de plaisir Cédric au 3216. Bonjour Cédric.
Bonjour.
Bonjour Cédric.
Bonjour à tous.
Et bienvenue, vous êtes en Gironde. Cédric, on vous écoute.
Alors oui, moi j'ai un projet depuis un petit moment. J'ai une porte d'entrée bois qui est bien abîmée.
Oui.
Et donc, je souhaitais la remplacer. Donc, je m'étais orienté sur diverses émissions. Je m'étais orienté plutôt vers du PVC. Et bon, l'artisan m'a fait deux devis, donc une porte PVC. Et il m'a conseillé aussi une porte aluminium.
Oui.
Alors, les tarifs sont quasiment similaires. Il n'y a pas beaucoup de
différence. C'est bizarre, ça. C'est bizarre.
Ah, d'accord.
Oui, parce que l'aluminium devrait être beaucoup plus cher.
Ouais, il a non, c'est à 100 € près, c'est quasiment pareil, ouais. Et donc, il m'a mis le coefficient. Alors, il y a un coefficient sur la porte aluminium. Alors, je sais pas trop référence norme NFEN 14351-1 UD égale 13W/MK.
Ouais.
Voilà, avec un dormant de 100 mm. Et par contre, la porte PVC, elle a un dormant de 70.
Oui.
Je voulais savoir un petit peu les. Par contre, tu m'as pas mis le coefficient pour la PVC.
Attendez, vous devriez avoir. Attendez, c'est simple. Hein. Vous devriez avoir l'étiquette environnementale. Hein. Donc, ça, c'est ce qu'il faut lui demander. Parce que
d'accord.
Ça existe depuis 2013. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne l'ayez pas. Et là, c'est beaucoup plus parce que vous vous embrouillez, si j'ose dire, hein, je me permets, dans des considérations techniques qui sont pas parlantes pour vous. Hein. Une étiquette avec des couleurs, des lettres de A à G et aussi un certain nombre donc d'autres d'autres éléments, bon, bah, ça parle, hein, ça parle. Alors bon, on va revenir quand même sur la problématique. L'intérêt de l'aluminium, c'est que c'est rigide, donc ça permet de faire des portes plus larges. Hein, c'est simple, c'est principalement l'avantage de l'aluminium. Alors ensuite, en revanche, c'est plus faiblard sur le côté thermique, parce que évidemment, bah, on le comprend, hein, le métal, ça transmet plus facilement la chaleur que du bois, par exemple. Hein. Donc, si votre maison elle est plein sud, vous aurez plus de d'échauffement avec une porte métallique qu'avec une porte en bois ou même en PVC. Ça, c'est donc un critère. Vous allez le voir d'ailleurs sur l'étiquette environnementale. Effectivement, si on vous la communique, ce que vous pouvez effectivement demander. L'avantage aussi, c'est que c'est vraiment sans entretien. C'est qu'aussi on peut l'avoir dans des couleurs et dans des teintes variées et jolies, parce qu'il y a un échantillon de couleurs qui est assez fantastique. Alors attention, je ne sais pas ce qu'on vous a proposé, ce que vous souhaitez comme couleur, mais plus c'est sombre et plus ça chauffe. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'on vous propose comme couleur et qu'est-ce que vous souhaitez.
Alors moi on a des huisseries blanches, donc un peu crème, donc oui. J'ai souhaité quand même reprendre la couleur.
Donc pas de problème. De ce côté-là, vous n'aurez pas de souci. Mais on voit de plus en plus, moi je suis effaré de voir des maisons individuelles avec des portes noires, avec des portes marron foncé, bleu, sombre là. Quand vous avez le soleil qui donne dessus, vous ne mettez plus la main dessus. Donc ça, il faut y faire effectivement très
attention.
Alors
que le blanc capte moins cette chaleur.
Ah bah pas du tout. Le blanc, il repousse la chaleur.
C'est dingue. Hein.
Donc c'est complètement dingue ce que ça peut être une captation de la chaleur. Faites attention aussi à la notion de serrure. Je sais pas ce qu'on vous propose en fermeture, ce qu'on pense à la porte, etc. Mais vous savez ce qu'on vous met comme serrure?
Alors c'est une serrure automatique 5 points, 4 rouleaux, 1 pen. Serrure, alors à relevage sur porte tiercée.
Ouais, c'est joli ça, hein, tout ça. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous avez comme A2P. Il faut demander là, il faut voir, parce que A2P c'est la norme de sécurité, c'est-à-dire de résistance donc à l'effraction, et vous avez A2P 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. D'accord. Dans un machin comme le vôtre, il faudrait bien avoir un 3 étoiles, parce que c'est quand même pas non plus complètement bon marché, hein, quand on met entre 2000 et 3000 euros dans une porte,
oui.
On est en droit qu'elle vous protège
qu'elle résiste.
Voilà. C'est pareil, vous devriez aussi avoir, parce que par rapport à toutes ces précisions, il y a un classement aussi qui est le classement AEV. Hein. AEV, c'est air, eau, vent.
Hein. Donc, je crois que ça, par contre, alors fabriqué en France, il m'a mis A4, E7A et VA3.
C'est bien. Bon, le vent, c'est un petit peu faiblard, mais ça dépend de quelle exposition, dans quelle exposition vous êtes. Est-ce que c'est très venteux, etc. Voilà en gros les éléments, mais demandez l'étiquette environnementale pour cette porte, ça me paraît important aussi.
On a un auditeur qui nous dit « Tonio, il n'y a pratiquement plus de différence de prix entre le PVC et l'alu, j'ai réalisé plusieurs devis et même constat que l'auditeur ».
Bon, ça veut dire que le PVC est cher.
Mais oui, alors peut-être qu'il y a un cours du PVC
qui
explose.
Classiquement, l'aluminium, par exemple, pour les fenêtres, l'aluminium est nettement plus cher que le PVC ou même que le bois. Encore que ça.
Il y a le Christian PVC aussi,
oui, c'est ça.
Dont le prix augmente, hein, je crois, hein,
oui.
En ce moment.
J'ai la cote.
Hein. Ah oui, c'est clair. Christian, le 32-16, l'appli RMC Direct Studio, si vous voulez joindre notre expert maison, comme chaque samedi, il est là. Tous les samedis 7h-8h, 32-16, l'appli RMC avec votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Il est temps de retrouver le conseil de Christian.
RMC, votre maison.
Le conseil béton de Christian Pesset.
Alors, voilà, on allume un peu la clim pour voir ce qui... Oula, il y a plein de trucs qui sortent,
hein. Elle est bruyante, celle-là. Hein.
Non seulement elle est bruyante, mais il y a plein de trucs bizarres. Et puis, vous sentez l'odeur?
Ah oui, ça... Ça, c'est pas bien nettoyé.
C'est pas bien nettoyé.
C'est pas bien entretenu.
Ah là là là. Ah, ben bah oui, mais on l'a pas nettoyé depuis vôtre. L'année dernière.
C'est la vôtre, ça.
Comment ?
C'est la vôtre.
Ah ben bah non, j'ai nettoyé mes filtres. Non, non, non. Voilà, alors là, bon, sérieux, bah... j'ai nettoyé mes filtres comme chaque année, mais j'écoute vos conseils, Christian.
Merci. Très bien.
Bon.
Alors, bah, les fortes chaleurs, elles vont arriver quand même, elles arrivent, elles sont déjà venues un moment, puis là, c'est parti un peu, mais ça va revenir, évidemment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une clim qui est pas bien entretenue, c'est une climatisation, bah, d'abord, qui fonctionne moins bien, c'est une climatisation qui consomme plus, et puis, c'est une climatisation, qui est moins saine, on en reparlera, puisqu'il y a une interrogation aujourd'hui sur les conséquences de la propagation du virus. Donc, il faut que tout cela soit entretenu. Ça peut même être complètement assaini. Alors, bon, deux clims. Hein, la clim monobloc, c'est-à-dire celle qui est mobile, comme on dit. Alors, ça presque la même chose, c'est beaucoup plus simple évidemment. La première des choses qu'on oublie de faire, c'est de voir si le bac de récupération des condensats, c'est-à-dire de la condensation de l'eau, qui s'accumule en dessous, dans la partie inférieure de la machine, est bien vidé. Il faut mieux commencer en début de saison par le vider, parce qu'à un moment ou à un autre, vous allez avoir un voyant qui va s'allumer et votre clim mobile va plus marcher. Au niveau des filtres, là, c'est relativement simple, puisqu'en général, vous avez le filtre à l'arrière, il suffit de le tirer, vous avez un panneau, et là, vous allez vous rendre compte, en regardant au travers avec la lumière, vous allez vous rendre compte qu'il est passablement obstrué, il peut même finir par être complètement obstrué. Moi, j'ai eu le cas sur un matériel de ce type, ça finit par s'obstruer, donc ça condense complètement et donc la machine évidemment finit par s'arrêter. Alors, si on a une climatisation fixe, généralement, ce qu'on a le plus souvent, c'est une climatisation multi-split, c'est-à-dire avec des consoles en partie haute de vos murs. Ben là, il va falloir commencer déjà. La moindre des choses, c'est de passer régulièrement un petit coup d'éponge sur l'ensemble de l'appareil. Une fois qu'il a été arrêté, parce que quand il s'arrête, les volets d'orientation de l'air se referment automatiquement. Donc, on va pouvoir à ce moment-là déjà passer un petit coup d'éponge avec un petit peu de détergent ménager pas trop agressif dessus. Bon, alors après, les filtres. Alors, certains matériels ont un voyant qui s'allume lorsque les filtres sont à nettoyer. Bon, mais c'est pas le cas de tous les matériels. Donc, on va encore une fois l'arrêter et puis on va passer à l'ensemble de l'entretien. Alors, ça commence par le groupe extérieur. Le groupe extérieur, c'est celui qui puise l'air et qui va faire l'échange ensuite thermique. Alors, il faut tout simplement regarder s'il n'y a pas des feuilles qui obstruent la grille, s'il n'y a pas même... Parce que comme ça aspire, évidemment, vous avez même des papiers gras qui peuvent venir dessus. Bon, c'est la moindre des choses. Ensuite un coup de brosse. Alors, pour ce qui est des
mais on n'attaque pas, on ne met pas d'eau, des choses comme ça.
Non, fait rien. On regarde quand même l'état des canalisations. Il y a un signe qui est un petit peu inquiétant parfois, c'est quand les canalisations au niveau des raccords sont gras. Donc ça, il faudra faire quelque chose, mais soi-même, on fait rien. Ça va être du domaine du professionnel. Alors pour les consoles, c'est-à-dire les splits, c'est relativement simple et on va se limiter à ça aussi. On a la partie avant du capot qui, en général, est éclipsée avec les deux mains. On ouvre le couvercle, on va dire. Et on tire le ou les filtres, parce qu'il y a souvent un filtre aussi à charbon actif. Donc, on le tire parce que c'est un petit peu enroulé à l'intérieur. On le tire, on le sort. On va donc là aussi aspirer, brosser, passer un coup d'eau éventuellement avec un détergent. On peut même le faire à l'extérieur avec un jet. Attention, jamais, jamais de nettoyeur haute pression, parce que vous allez faire un trou dans le filtre. Et au niveau du rinçage, si on le fait dans le lavabo, ce qui est souvent le cas. Attention, pas d'eau trop chaude, parce que l'eau trop chaude, évidemment, c'est très fragile.
Bien sûr.
Il va vous déformer votre filtre. Donc, on le sèche, on l'essuie, et puis on remet tout cela consciencieusement. Après, il n'y a plus qu'à remettre le filtre, refermer, etc. Attention, au-delà de ces opérations de base, vous pouvez les faire toutes les 4 à 6 semaines, normalement. Pratiquement une fois par mois, il faudrait bien nettoyer.
Même l'hiver.
Son filtre, si vous l'avez en
chauffage.
En réversible, évidemment. Sinon, si ça marche pas, c'est pas la peine. Tout le reste, c'est de l'affaire du technicien de maintenance, qui va aller au-delà dans le démontage de l'appareil. Il va faire quoi? Il va dégraisser l'intérieur, nettoyer le bac à condensat, contrôler l'écoulement. Il il va voir la turbine, les connexions électriques, etc. Il va aussi contrôler la température en sortie avec un thermomètre pour voir si tout cela fonctionne correctement. Il fera aussi un contrôle d'étanchéité et éventuellement il remédiera à des fuites qui pourraient exister et il va recharger à ce moment-là le système avec le fluide frigorigène. Alors tout cela, ça doit se faire régulièrement. Alors l'entretien annuel n'est pas obligatoire et malheureusement, il est obligatoire que sur les appareils de plus de 3 kilos de fluide, ce qui est déjà une grosse clim. Moi, je plaide pour que ce soit véritablement comme pour les chaudières, un contrôle par an. On prend à ce moment-là un contrat de maintenance. Ça coûte 150-200 euros par an, mais c'est ce qu'il faut faire parce qu'en plus les risques sur l'environnement sont quand même encore importants avec des fluides frigorigènes qui sont quand même pas l'idéal pour la planète. Alors souscrivez ce type de contrat pour trouver un professionnel. On anticipe déjà sur la question de
sujet qu'on a évoqué tout à l'heure.
Il y a une structure, ça s'appelle le SINASAV. Le SINASAV, c'est le syndicat national professionnel, donc des professionnels de maintenance. SINASAV avec un Y, S-Y-N-A-S, comme la SAV, .fr. J'ai mis le lien sur la page Facebook. Et vous trouverez un annuaire des professionnels qui sont patentés, qui sont certifiés. Je crois que ça mérite, c'est un équipement quand même qui coûte assez cher. Ça mérite
de faire appel à celui qui l'a installé, non?
Oui, bien sûr, mais parfois, au bout de 10 ans, il n'existe plus. Et puis là, vous avez vraiment des pros de l'entretien. De l'entretien, c'est comme la chaudière, vous avez des pros de la chaudière, là aussi vous pouvez d'ailleurs voir ce site sinasaf.fr.
Christian, tout ça était bien complet comme d'habitude. Merci. On revient dans un instant.
Oui.
On va parler rénovation.
On va parler réno.
Voilà, comment bien choisir son entreprise pour rénover sa maison. C'est important. Vous avez des questions sur ce sujet parce que vous souhaitez peut-être vous envisager de rénover votre maison, vous ne savez pas quel artisan choisir, c'est le moment. 3216, l'appli RMC Direct Studio, vous nous laissez votre numéro de téléphone et on revient dans une minute juste après la météo que voici.
RMC,
7h-8h,
votre maison, François Sorel,
Christian Pessé.
Quasi 7h30, le week-end des experts et après le jardin, c'est la maison, vous le savez. La maison jusqu'à 8h avec Christian Pessé. Et Christian, on va donner plein de conseils à tous ceux qui nous écoutent pour bien choisir notre entreprise pour rénover la maison.
Tout à fait, nous sommes avec Fabio Rinaldi, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes président du directoire de Big Mat France, c'est une très grosse enseigne de négoce, hein, on appelle ça comme ça.
C'est la première enseigne européenne dans le négoce de matériaux.
D'accord. Donc, ce sont ces structures souvent en périphérie de villes moyennes ou même peut-être de grandes villes qui donc sont au départ destinées pratiquement aux artisans et aux entreprises et qui progressivement ont ouvert leurs portes aussi aux particuliers.
Alors effectivement, nous sommes implantés en milieu urbain, mais également autour des grandes villes, Lyon, Bordeaux, enfin. Alors on n'est pas sur la région parisienne. Alors à 80% chez Big Mat, effectivement, ce sont des artisans. Donc les artisans, on connaît bien.
D'accord.
Et puis le reste, c'est du gros bricoleur, ce qu'on appelle un peu les castors.
Voilà. Mm-hmm. Alors l'intérêt quand même, souvent d'aller chez vous, c'est qu'on a des produits professionnels.
Ah oui, vous avez non seulement des produits professionnels, la spécificité du marché, c'est que nous avons beaucoup de produits qui sont fabriqués en France, tout simplement parce que dans les matériaux, les produits ne voyagent pas très bien sur des longues distances, et donc vous avez beaucoup de fabrication, notamment de proximité, dans des rayons de 100-150 km.
Alors le fait que vous voyez beaucoup de particuliers, mais encore plus de professionnels, je crois que vous a incité donc à faire une étude. C'est avec qui comme institut de sondage?
BVA.
BVA.
Hein. Enfin une étude BVA Big Mat effectivement, puisque nous connaissons très bien les artisans, nous avons de plus en plus de particuliers. Et on était très très curieux de savoir eh bien, oui, comment ces gens-là se parlent, se trouvent et se rencontrent.
Alors j'ai vu cette étude, notamment en 10 points. Qu'est-ce qui ressort principalement, les gens aujourd'hui cherchent une entreprise par Internet ou ils font encore confiance à, bah, je dirais, à la présence directe, au bouche à oreille, etc. C'est quoi la tendance?
Écoutez, paradoxalement, à l'heure du digital, oui, ce n'est pas encore sur Internet qu'on trouve son artisan. Donc, il existe des plateformes de mise en relation.
L'intermédiation, comme on dit.
Voilà, exactement.
De façon savante.
Mais si vous êtes allé sur ces plateformes, vous verrez que, il faut, de façon traditionnelle, répondre à des questions et vous n'avez pas le contact direct. On va vous rappeler dans 48 heures. Or, lorsque vous avez un projet, et notamment avec un artisan, vous savez, l'humain aussi, ça compte. C'est notre slogan et c'est très important.
Alors la question
et
donc, qu'on peut se poser, c'est si une entreprise a besoin d'être sur Internet, c'est peut-être qu'elle n'a pas beaucoup de boulot et que non, ça peut
non,
pas être ça
non,
aussi.
Parce qu'aujourd'hui, il faut être sur Internet. Vous avez parlé de réseaux sociaux tout à l'heure. Enfin, donc c'est important. Mais contrairement à des secteurs comme l'hôtellerie ou la restauration, vous allez chercher beaucoup d'avis sur Internet, vous allez vous informer. Aujourd'hui, le client va s'informer et l'artisan est très connecté. Hein, donc vous allez chercher beaucoup d'informations sur Internet. D'accord. Mais pour un chantier sur deux, c'est le relationnel et donc le bouche à oreille qui fait que vous allez choisir un artisan ou pas.
Christian Fabio, auditeur, auditrice. René est avec nous au 32-16. Bonjour René.
Oui.
Alors, est-ce que René
bonjour
est
René.
Une fois, deux fois. René est là. Oui, bonjour René.
Oui, bonjour.
Bonjour, on vous entend. Bienvenue sur RMC.
Oui. Alors, j'ai un petit problème. Je suis du côté de Fontainebleau, sur un petit coteau. Et nous sommes en catastrophe sécheresse déclarée sur la commune. Et nous cherchons un artisan ou alors on a déjà des études de sol parce qu'on a déjà été il y a une vingtaine d'années en catastrophe naturelle. Il y a eu des injections sous les murs de soutènement de notre garage qui est accolé à notre maison. Et donc là ça recommence et vraiment c'est catastrophique puisque le mur est en train de se scinder en deux et il y a des grosses fissures et nous recherchons à la fois un expert qui va pouvoir nous dire ce qu'il faut faire maintenant puisqu'on a déjà eu une intervention qu'elle n'a pas été efficace et d'autre part une entreprise qui va pouvoir éventuellement nous faire les travaux.
Fabio, de toute façon là premièrement, il y a combien de temps que vous avez fait vos premiers travaux?
Oh, il y a une vingtaine d'années.
Ah oui, d'accord. Donc vous n'êtes plus en garantie
donc,
décennale.
Il n'y a plus de décennale, effectivement, pour se retourner de...
Il y a plus de garantie décennale. En revanche, vous pouvez faire une expertise, il y a par
alors,
exemple...
Alors, il y a eu des expertises de fait. Si vous voulez, on a pris quelqu'un qui avait été cité dans votre émission, Delphi, vous connaissez, non?
Oui, bien sûr.
Voilà.
Oui.
Voilà. Qui est venu nous dire que, en fait, la première intervention qui avait été prise en charge par notre assureur, il y avait eu une étude de sol, bien sûr, de fait, mais il y avait deux propositions pour résoudre le problème, et l'assurance a choisi la moins chère.
Oui, ce qui est...
Mais preuve, c'est que dès les premières années, moi j'ai contesté, j'ai dit qu'écoutez, apparemment, ça semble pas résoudre le problème.
Alors là, on est sur des gros travaux. Hein.
Oui, oui.
Donc, Fabio, qu'est-ce qu'il faut faire là vraiment pour le bouche à oreille peut-être, parce que vous avez d'autres. J'imagine qu'il y a d'autres maisons dans l'environnement qui ont été touchées aussi.
Oui, absolument. Oui.
Voilà.
Et donc effectivement, madame, le bouche à oreille dans ces cas-là, mais peut-être que vous l'avez déjà fait. Vous êtes allé rencontrer vos voisins qui ont eu ce cas, mais le bouche à oreille est typiquement la meilleure façon, c'est d'aller rencontrer quelqu'un qui a déjà eu ce problème et qui a trouvé une solution et qui va vous recommander un artisan ou une entreprise. Et à l'inverse, qui saura vous faire fuir les entreprises qui ont fait du mauvais boulot. Parce que le bouche-oreille, il est valable dans les deux sens.
Bien sûr.
Autant pour recommander les bons artisans sérieux qui respectent les délais, et à l'inverse, on va vous dire, attention, celui-ci, tu évites. Et vous avez soulevé un sujet, madame, c'est que votre assurance, et malheureusement, vous aviez probablement pas le choix, parce que ça vous était imposé par votre assureur.
Ah non, ça vous était imposé.
Voilà, et votre assureur a choisi le moins cher. Et là, on va toucher l'autre sujet quand vous faites des devis, et tout à l'heure, Cédric en Gironde, pour sa menuiserie, avait deux devis, et il a raison. attention, ne pas prendre forcément le devis, le prix le moins cher.
Pourquoi ? Le moins 10 ans, comme on dit.
Ben, le moins 10 ans. Alors, ce qu'on dit, c'est ne prenez pas le moins 10 ans, mais prenez le mieux 10 ans.
Dans le cas de l'assurance, elle n'avait pas le choix.
C'est
l'assurance
qui
choisit.
Oui, mais là, madame, apparemment, il n'y a plus d'assurance, il n'y a plus de décennie.
Alors, justement, comme j'ai contesté pendant plusieurs années avec des lettres recommandées en disant que ça ne convenait pas. Alors, au début, ils nous disaient ben oui, il faut attendre que ça se stabilise, parce qu'il y avait eu des injections de béton sous les murs, vous savez.
Ah, de béton. On ne vous a pas fait d'injection de résine, on vous a fait du béton.
Du béton, voilà. Ça, et donc on est à nouveau en catastrophe naturelle. Et ils nous disent, ah ben non, les murs sont tellement détériorés qu'on ne peut pas prendre en charge votre problème. Alors qu'ils sont à l'origine du problème.
Bah, attendez, là, c'est une discussion avec votre assurance.
Oui.
Vous contestez au besoin la décision de votre assurance. Et vous contactez le médiateur de votre assurance. Et après, il y a le médiateur des assurances.
Ah, il y a le médiateur de notre assurance et le médiateur des assurances.
Des assurances. Donc,
et comment on accède au médiateur des assurances?
Vous tapez tout simplement sur Internet, médiateur des assurances, et vous allez trouver tout de suite les coordonnées. Ça,
donc il y a deux médiateurs.
Il y a deux médiateurs.
Ouais, il y a deux médiateurs.
Alors,
on arrive. Merci en tout cas, René.
Merci, René. Ensuite, parce qu'on n'est pas toujours dans ce cas avec les assurances, etc., sur un plan juridique, il y a un minimum de précautions à prendre. Si l'entreprise n'est pas très connue, si elle n'a pas pignon sur rue, c'est quoi? C'est registre commerce métier?
Alors oui, effectivement, donc il faut vérifier que l'entreprise existe. Alors si vous pouvez, aujourd'hui, il y a des moyens aussi de voir éventuellement sa santé financière.
Société.com ou autre.
Absolument. Et puis voir si, surtout quand vous recevez des devis, et d'ailleurs la loi Macron 2015 oblige à avoir une copie d'attestation d'assurance.
Ah oui, ça c'est essentiel.
Avec les devis. Et ça c'est important. Hein, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez, encore une fois, notamment par le digital et certains sites, trouver des artisans ou des gens qui vous proposent leurs services.
Attention aux camionnettes blanches, voilà, sans marque.
Voilà, exactement. Ouais. Ça c'est ce qu'il y a de pire. Alors, il y a de bons artisans, attention, comme
ça. Quand
des camionnettes blanches, et la plupart ont des camionnettes blanches. Mais il faut vraiment être vigilant. C'est une somme d'éléments. On parlait du prix, c'est pas forcément le moins 10 ans, c'est le mieux 10 ans. C'est également s'assurer qu'il y a des assurances. Alors, de côté de l'artisan, ça va être une décennale, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, pourquoi pas aussi des labels, selon ce que vous faites comme
type. Et notamment le RGE.
Le RGE, si vous faites notamment de l'isolation, voilà. En ce moment, l'isolation à 1 euro.
Du calibate, des choses comme ça.
Absolument, voilà. Donc, vous voyez, une fois que vous réunissez tous ces éléments, bah là, vous avez de plus en plus de chances d'avoir le bon artisan.
Et quand on a une entreprise à qui on demande un papier d'assurance, il faut s'assurer de la date, au niveau de la décennale, parce qu'on a des fois des entreprises qui n'ont pas payé leur cotisation pendant un an, quoi.
Voilà, vous allez voir l'entreprise qui vous donne effectivement son attestation d'assurance, mais si l'assurance a 9 mois, 1 an, voire même plus, et qu'elle n'est pas à jour dans ses cotisations, ou alors, si elle a eu 2-3 dommages dans cette année-là, sinistre, imaginez
qu'il y a eu une rupture.
Absolument, imaginez qu'il y a eu une rupture, et auquel cas, vous avez une belle copie, mais il n'y a plus d'assurance derrière.
L'assurance dommage ouvrage, je ne cesse de le répéter depuis des années, c'est ce qui permet de ne pas avoir à s'adresser à l'entreprise, de ne pas négocier avec l'entreprise si on doit faire jouer la décennale, et c'est essentiel si l'entreprise a disparu.
Absolument, alors la dommage ouvrage, c'est plutôt à vous de la prendre.
Absolument. Ou votre c'est obligatoire architecte. Normalement.
Absolument.
Mais comme il n'y a pas de sanction.
On est tenté pour des raisons économiques de ne pas la prendre. Et moi, je vous invite vraiment à prendre cette assurance parce que dans la construction, et Madame le prouve, vous pouvez avoir ensuite de mauvaises surprises.
C'est sûr. À partir de là, on va demander des devis. Est-ce que l'entreprise est en droit de vous demander 30% du prix, parfois plus, des appels
de fonds
en cours de travaux. Comment ça marche, ça?
Oui, alors, lorsque vous avez un devis, vous avez souvent un acompte à la commande. Ce que je peux comprendre, c'est normal, parce que l'artisan, il achète du matériel. Donc, du matériel, et puis il a aussi du personnel. Et l'artisan n'est pas... Bon, ce sont des métiers où vous n'avez pas énormément non plus.
Ça
des trésoreries.
Ça ne devrait pas dépasser une dizaine de pourcents.
Oh, vous pouvez monter à 20-30% maximum.
Énorme, voilà. 30 sur un gros chantier.
Oui, mais sur si c'est un gros chantier, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de matériel, donc ouais. Il va y avoir des achats. Ouais. Voilà, vous montez dans ces eaux-là, mais entre 10 et 30% selon le chantier, et puis éventuellement en cours, et surtout par contre, Christian, c'est en fin de chantier, où là vous attendez le dernier moment, voire même, vous savez, souvent il y a une retenue de 5%, hein, absolument, ouais. Jusqu'à la levée des réserves. Ouais. Donc vous faites la réception de votre chantier, vous voyez
comme une maison neuve, comme une maison neuve. À chaque gros chantier, on va dire qu'il y a une véritable réception. Il doit y avoir une véritable réception.
Il doit y avoir une réception, même si vous faites des peintures, vous refaites une salle de bain ou autre. Il faut qu'il y ait une réception. Ouais. Et puis, vous pouvez garder effectivement 5% pour vous assurer que s'il y a des réserves, elles seront levées. Et à ce moment-là, ensuite, vous pourrez solder, on va dire.
Attention au paiement, c'est pour ça que je disais 10%. On peut aller jusqu'à l'habitude de pouvoir aller jusqu'à 30. Voilà, mais attention, j'ai connu le cas de spécialistes du début de chantier.
C'est-à-dire qu'ils attendent que vous donniez les 30% et après qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il se passe rien.
Ils s'en vont.
Et moi, j'ai connu ça. Hein. L'échafaudage, les spécialistes de l'échafaudage, hein, qui arrivent, qui vous font payer 30%. Finalement, c'est presque plus que la location de l'échafaudage. Et puis, on ne les revoit plus pendant un mois.
D'où l'importance du choix de l'artisan, éventuellement.
Et du bouche à oreille.
Et des références pour savoir ce qui s'est passé. Parce qu'effectivement, vous avez souvent des gens qui commencent et puis qui vont prendre un autre chantier. Alors, ils vont s'absenter un jour ou deux. Et puis voilà. Et puis, ça dérive.
Fabio Rinaldi, Christian Pessé, on revient dans un instant. Justement, Mickaël sera avec nous au 32-16. Il va nous raconter son histoire. Mickaël a fait poser des fenêtres pour 34 000 euros.
Aïe.
Le problème, c'est que ces fenêtres ne sont pas étanches. Elles sont non conformes. Il a refusé de payer la totalité, en fait, de la somme. Et l'artisan envisage de l'envoyer au tribunal, carrément. Oui. Donc, on est dans une situation compliquée. On va essayer... dépatouiller tout ça. Christian, vous allez pouvoir aider Mickaël.
Voilà.
Ça, c'est le genre de truc qui vous plaît. Vous aimez bien, de temps en temps, vous fritez
ça.
Alors attention, c'est dans une minute, le 32-16, l'appli RMC Direct Studio, Christian est chaud bouillant, mesdames, messieurs. Donc vous restez là, tout de suite.
RMC jusqu'à 8h.
Votre maison.
RMC
jusqu'à 8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Le retour de ce week-end des experts, il est 8h moins le quart. Comment bien choisir son entreprise pour rénover sa maison ? On en parle bien sûr avec Christian Pessé, mais aussi avec Fabio Rinaldi, qui est président du directoire de Big Bat France, première enseigne donc européenne de distribution de matériel et de matériaux pour les travaux dans la maison. Messieurs, on vous parlait du cas de Mickaël. On accueille tout de suite Mickaël. Christian.
Bonjour Mickaël.
Vous êtes prêts ?
Oui, je suis prêt.
Allez, on y va. Bonjour Mickaël.
Bonjour, vous allez bien ?
Oui, ça va. Et vous, ça va pas très bien d'après ce qu'on comprend.
Non. Du coup, mon histoire, ça va faire un an, un petit peu plus d'un an que j'ai posé, j'ai fait poser des fenêtres, sur ma maison que, du coup, j'ai autoconstruit sur une ossature bois.
Autoconstruit.
Oui, c'est ça. Et du coup, un projet quand même d'une vie, quoi. C'est un projet qui rêvait depuis moment. Et du coup, voilà. J'ai fait plusieurs devis pour mes menuiseries, parce que j'ai quand même 17 menuiseries. J'ai fait poser 17 menuiseries, une porte d'entrée et 16 fenêtres, du coup. Donc, pas mal de fenêtres. J'ai fait plusieurs devis à droite, à gauche. Donc, voilà. Après, moi, je suis artisan, je suis terrassier. Du coup, j'ai fait plusieurs devis à droite, à gauche pour évaluer tout ça. Et je connaissais une personne qui était, cette personne-là qui... un ami à la base quand même et qui est menuisier. C'était pas le moins cher et la marque qu'il posait était bonne, que je connaissais. C'est juste en fait que les poseurs n'étaient pas bons surtout.
Ouais, c'est ça.
Du coup,
il vous installe les fenêtres.
Voilà, c'est ça. Il m'installe les fenêtres du coup. C'est une histoire parce que déjà je suis arrivé, il m'a fait ramener, il est passé, il a pris toutes ses cotes, etc. Il a commandé ses fenêtres sont arrivées. Je rentre le soir et là je vois toutes ses fenêtres posées à côté, mais aucune de posée. Déjà il y a un problème. Je l'appelle, je lui demande ce qui se passe, etc. Il me dit écoute, les fenêtres elles rentrent pas. Je sais comment ça rentre pas.
Il va falloir aller dans la maison.
Je suis resté sur le cul, hein, parce que là c'est quand même une affaire. Et là, j'arrive et il me dit que les fenêtres ne rentrent pas. Je dis, pourtant, t'es bien passé vendre tes cotes. Tu connais tes produits. Je fais, comment ça se fait qu'elles rentrent pas, quoi? J'ai oublié que le moteur, du coup, parce que c'est des moteurs incorporés directement dans les murs. Donc, c'est un bâti complet qui arrive.
Des moteurs de quoi?
des moteurs de volets.
Ah oui, d'accord.
Moteurs de volets. Et du coup, moi, ça rentre pas. Donc, du coup, je me retrouve avec une journée complète de 6h à 21h à reprendre toutes les modifications de chaque ouverture de la maison.
Ouais.
Donc, bref, voilà, pour les poser.
Alors, on vous les installe, etc. Et là, vous constatez quoi? Que c'est.
Du coup, j'ai de la flotte qui, parce qu'en plus, c'est pareil, il me fait pas les finitions de tableau. C'est à moi de les faire, les finitions de tableau. Du coup, bon, bref, je l'ai fait. Et là, je me retrouve avec de la flotte qui passe à travers les fenêtres.
Alors, ma première question, c'est, vous n'avez pas eu la possibilité de prendre une dommage ouvrage parce que vous étiez en autoconstruction?
Non, je l'ai fait.
Vous avez votre dommage ouvrage?
Oui, je l'ai.
Ben alors, vous discutez pas avec votre entreprise. C'est directement avec votre assurance, point barre.
D'accord.
Alors là, c'est la clé de tout. C'est justement l'intérêt de la dommage ouvrage.
Ce qu'on disait tout à l'heure.
Mais Mickaël, enfin, tout est réglé là.
C'est un truc tout bête.
Attendez, là, je le dis pour tout le monde. Si vous avez un problème de décennale, puisque les fenêtres, ça rentre dans la décennale, parce que le fait que ça fuit, ça fait en sorte que ça peut risquer de ne plus permettre au bien d'aller vers sa destination, c'est-à-dire ça peut rendre inhabitable la maison, donc ça rentre complètement là, il n'y a aucun souci dans la décennale. Vous avez une assurance dommage ouvrage qui vous a coûté cher, vous ne discutez plus rien avec votre entreprise, l'assurance c'est tout, hein.
Donc, du coup, je contacte son assurance à lui.
Votre assurance dommage ouvrage.
D'accord.
Vous l'avez prise, votre assurance dommage ouvrage, mais vous ne le connaissez plus. C'est comme s'il avait disparu. Hein, c'est d'accord. Votre interlocuteur, c'est l'assurance.
D'accord. Parce que je sais que moi, j'ai déjà posé des fenêtres du coup.
Ouais.
Et le problème qu'il y a, c'est qu'il a pas fait ça dans les normes qu'il fallait.
Oui.
Elles sont pas posées correctement. Voilà, les bâtis principaux en bas.
L'assurance va commettre une entreprise pour faire les réparations. Va d'abord s'adresser à l'entreprise en question. Ensuite, va choisir, et souvent, elle a une entreprise agréée. Donc, il n'y a pas de souci. On n'en parle plus. Vous allez. Après, c'est pas toujours aussi simple que ça avec les assurances. Hein. Faut quand même le dire.
In fine, ils seront obligés de payer.
Bien sûr, in fine, ils seront obligés de payer. Il n'y a pas de raison. Et puis, ne vous laissez pas intimider par votre entreprise. C'est vous qui pourrez l'assigner en dommages et intérêts, si effectivement vous avez une privation de jouissance parce que vous ne pouvez pas habiter votre maison.
Mais là, ça commence mal. C'était des amis. Enfin, il y a un truc aussi. C'est toujours risqué, hein, ces situations-là, ou non?
Oui, évidemment, c'est toujours un souci. Mais donc aussi là, vous avez vu ce qui s'est passé. Je vais pas dire qu'il y a du copinage, mais quand vous avez une entreprise avec laquelle vous avez des relations d'amitié, etc., c'est d'autant plus difficile ensuite de l'attaquer.
On a terminé avec notre sujet. On enchaîne avec le coup de cœur, Christian.
Oui, on peut enchaîner avec le coup de cœur.
On a terminé.
J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je pense que.
Les artisans,
on peut en parler, c'est très intéressant.
C'est surtout les labels, il faut faire attention à avoir des entreprises. Parce que je pense que les labels, on dit, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'on n'a pas une entreprise qui a simplement acheté finalement son label en adhérant à une structure? Mais je crois que c'est vraiment très important.
Il y a l'expérience, il y a la proximité, on n'a pas parlé aussi de choisir aussi des entreprises qui sont proches, c'est plus facile. Pour que l'artisan se déplace. Donc, la relation est très importante. Et puis, il faut le sentir.
Merci beaucoup.
Merci
Fabio. Rappelons que vous êtes président du directoire de Big Mat France. Alors, votre coup de cœur, Christian, on va parler de cette expérience collective d'autoproduction et d'autoconsommation d'électricité.
Oui, alors ça se passe sur l'Île-Dieu. Il y a 23 habitations qui peuvent bénéficier de l'électricité photovoltaïque qui est produite par les panneaux qui ont été installés sur 5 d'entre elles. Au total, il y a 64 panneaux photovoltaïques. Il y a une batterie
où sur les maisons,
sur les maisons. Hein, donc avec toutes les complications que aussi ça peut poser parfois par rapport à l'environnement, hein. C'est-à-dire que il y a des fois on peut pas poser des panneaux photovoltaïques parce qu'on est à côté d'une église du 12e siècle et que l'architecte des bâtiments de France
s'est pas accepté
cet être très sympathique peut très bien refuser donc l'installation. Là, en l'occurrence, c'est pas dans un site protégé. Il y a une batterie qui est installée chez les consommateurs pour stocker l'énergie, et on a aussi qui stocke l'énergie qui est pas consommée immédiatement. Hein. On a aussi 6 ballons d'eau chaude, parce qu'on n'y pense pas souvent, mais lorsqu'on a un ballon d'eau chaude, eh bien c'est de l'énergie stockée. Hein. C'est de l'énergie que vous avez utilisée et que vous avez utilisée pour chauffer votre eau. Donc quelque part, c'est de l'énergie stockée. Alors l'opération, elle est accompagnée par la mairie de Lisle-Dieu, par différentes associations et institutionnels locaux, et c'est conduit par Engie, qui est un grand spécialiste maintenant justement de ces initiatives vers l'électricité verte. Alors
c'est sur Lisle-Dieu, hein, tout
c'est
ça.
C'est sur Lisle-Dieu. C'est une démarche collective. Ça me semble extrêmement intéressant. Ça ouvre la voie à une électricité vraiment verte qui est produite de façon communautaire, puisque c'est la production, elle est utilisée en temps réel, immédiatement. Il n'y a pas de réinjection dans le réseau, de réseau d'électricité qui vous revient ensuite, enfin tout le système.
Mais l'électricité, j'ai pas bien compris, Christian, elle est stockée quelque part sur des batteries,
oui,
ou pas,
oui,
malgré tout,
oui.
D'accord.
Alors,
donc elle n'est pas forcément consommée immédiatement.
Alors,
elle est produite,
voilà,
stockée. Alors, et on la prend quand on en a besoin.
Bah, par exemple, typiquement, la journée, on va avoir du soleil, donc on va l'utiliser directement.
Oui.
La nuit, on va l'utiliser sur les batteries. Il y a cette possibilité de stockage. Alors bon, évidemment, il faut être clair, ça ne suffit pas à couvrir les besoins des 23 habitations en l'occurrence, mais Engie parle d'une part de consommation qui est couverte par la production solaire de 28%. Donc il y a 30% de l'électricité nécessaire à ces maisons qui est quand même d'origine photovoltaïque. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le taux d'autoconsommation, c'est-à-dire véritablement donc ce lien entre la production et la consommation immédiate, c'est 96%. Donc il y a pas de gâchis. C'est un dispositif donc qui va être test pendant 2 ans et qui ensuite va pouvoir être étendu. Il y a la possibilité d'ailleurs de s'adresser à Engie pour une collectivité, de dire bah voilà, nous on est candidat, on voudrait bien avoir recours à cela. C'est extrêmement simple. En plus, quand c'est une
dites-moi, EDF, au bout d'un moment, ils vont dire attendez, ça suffit vos bêtises là, non? Parce que si petit à petit on peut être en autoconsommation et en autoproduction.
Oui,
ça pose un problème,
oui,
non, pour EDF.
Sûr. Alors c'est pas EDF, parce qu'il y a autre chose que EDF. C'est pas le
non, mais
l'un
EDF,
des producteurs,
mais...
des vendeurs d'énergie,
ouais,
on va dire.
Des vendeurs d'énergie.
Bah, c'est pour ça aussi que Engie en fait partie. Hein.
Mmh.
Donc c'est pour ça aussi que ces grandes entreprises se tournent vers d'autres moyens de production et de l'autoproduction et de l'autoconsommation. On va suivre. Moi, je vais essayer de suivre.
Mais vous savez qu'aux US, Elon Musk, qui est le patron de Tesla, enfin qui est un visionnaire, prône justement l'autoproduction et l'autoconsommation électrique.
D'autant que Tesla produit ses propres batteries.
Évidemment.
Hein, vous avez vu la capitalisation boursière de Tesla, qui est aussi importante que celle de Toyota.
Voilà, elle est plus importante que celle de Toyota.
Ouais, avec 100 fois moins de véhicules produits.
Voilà, et on en parlera demain avec Jean-Luc Moreau d'ailleurs. Christian, merci beaucoup.
Mais je vous en prie, je suis là pour ça.
Chaque samedi, 7h-8h.
Merci.
Et 8h-9h dans un instant, c'est Christian Riquia qui sera là pour notre rendez-vous Forme Santé, bien sûr. Vous restez là.